La fabrique citoyenne. La fabrique citoyenne, imaginée par AnimaFac, réseau national d'échange d'expériences et de ressources pour les initiatives étudiantes, est un dispositif mis en place pour répondre à certaines problématiques. La participation citoyenne se limite-t-elle à déposer un bulletin dans une urne tous les 5 ans? Quelle est la place de la jeunesse française dans le débat public? Les sujets politiques sont-ils trop complexes pour que les citoyens s'y intéressent et y prennent part? Et s'ils le faisaient, quelle vision ou modèle de société et quelles mesures en découleraient? La fabrique citoyenne a cherché à répondre à ces questions en réunissant 40 jeunes, 10 heures par jour durant 6 jours, au sein d'un dispositif savamment réfléchi. Ce groupe de 40 jeunes de 16 à 30 ans a été composé par un institut d'études de marché afin d'être représentatif de la diversité d'âge, de genre, de situation sociale, scolaire, professionnelle et de sensibilité politique de la jeunesse française. Réunis durant 6 jours, dont 3 ont été dédiés à l'information et la formation avec des experts qui ont apporté des positions pluralistes et contrastées, et 3 autres jours de délibération collective, un temps d'échange, de débat, d'écoute, durant lesquels ils sont passés du « je » au « nous » en transformant les opinions individuelles en propositions collectives. 50 propositions en sont ressorties autour d'une question: dans quelle société souhaitons-nous vivre en 2017? Vaste question déclinée sous 3 grands axes: l'école, l'économie et l'Europe. Les travaux et propositions réalisés ont été ensuite remis à chaque parti représenté aux élections présidentielles, qui ont tous été invités à y réagir au cours d'un débat organisé lors du Forum national AnimaFac à la Halle de la Villette le 17 février dernier. Lors de ce débat, les 40 jeunes de la fabrique citoyenne ont présenté leurs travaux aux 5 partis ayant répondu à l'appel, à savoir Europe Écologie, représentée par Eva Joly, l'UMP, représentée par Benoît Apparu, le Modem, représenté par Jean-Noël Martin, Martine Billard pour le Front de Gauche et Vincent Payon pour le Parti Socialiste. Un débat que La Grenouille vous a fait revivre tout au long de la semaine, c'est Martine Billard pour le Front de Gauche qui clôture cette série dès à présent sur le 88.8. Bonne écoute.
Donc nous accueillons Martine Billard. Martine Billard est co-présidente du Parti de Gauche. Elle est ici pour représenter Jean-Luc Mélenchon et plus largement bien sûr le Front de Gauche. Et vous êtes aussi députée. Voilà. Donc Martine Billard, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Vous avez une semaine de folie comme la majorité, des personnes qu'on a eues aujourd'hui avec nous. On sait qu'on n'a qu'à très peu de temps de l'échéance présidentielle. Et donc merci d'être venue écouter les travaux et surtout y réagir aux travaux des 40 jeunes qui ont constitué la fabrique citoyenne. Donc notre demi-heure en commun va se dérouler autour de 4 grands moments. Un premier moment où je vais vous demander de réagir un peu à chaud, enfin tout à fait à chaud, sur les propositions et sur la méthode aussi un peu particulière de cette fabrique citoyenne. Et puis je céderai la parole à 3 représentants de la fabrique citoyenne qui viendront vous présenter les grands axes de leurs propositions autour de l'école, de l'économie et de l'Europe. Donc, à vous la parole, Martine Billard, sur ce que vous inspire cette fabrique citoyenne.
Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, moi, je suis très contente d'être là et de pouvoir un peu expliquer quelles sont nos propositions et comment on a lu les documents et la réflexion aussi sur la démarche. C'est vrai que la démarche, nous l'avons trouvée particulièrement intéressante puisque vous savez qu'on insiste beaucoup sur la participation citoyenne. Donc, de fait que des jeunes se réunissent et réfléchissent sur quelle société aujourd'hui nous voulons pour notre pays, et plus largement, et quelles sont les modifications, quelles sont les réformes qu'il faudrait proposer, pour nous, c'est tout à fait très positif. Donc de ce point de vue, déjà, rien que ça, on a trouvé cela intéressant, d'autant qu'on dit beaucoup que les jeunes se désintéressent de la politique, donc quand il y a des jeunes qui, au contraire, prennent l'initiative volontairement de s'intéresser et ensuite d'interpeller finalement les politiques, c'est toujours positif, puisque c'est plutôt ce qu'on souhaite de manière générale, c'est que de plus en plus de citoyens, au contraire, s'impliquent dans les choix des politiques pour notre pays, parce que plus de citoyens s'impliqueront et plus ces choix seront démocratiques, et donc c'est toujours positif pour un pays. Le deuxième aspect, c'est le fait que les propositions, enfin la réflexion, et que vous ayez écrit d'ailleurs que vous ne vouliez pas être dans un catalogue uniquement pour les jeunes. Pour nous, ça nous semble important, puisque un de nos points principaux, c'est que nous sommes sur l'égalité des droits. Et l'égalité des droits, ça veut dire donc les mêmes droits pour toutes et tous. Et s'il peut y avoir effectivement, par moment, des propositions qui peuvent être spécifiques, il faut qu'il y ait un corps de propositions qui concerne l'ensemble des citoyens. Parce que si on commence à diviser la société par catégories, quelles que soient ces catégories, que ce soit l'âge, que ce soit le genre, que ce soit l'origine, ou ainsi de suite, on finit par un moment faire entrer les catégories en concurrence, ce qui est toujours négatif, bien évidemment, ou y compris les dresser les unes contre les autres. Et on le voit très souvent, quand même, dans les politiques qu'ont pu être menées, chez nous, c'est notre façon de voir, qu'on a eu tendance à dresser les jeunes contre les vieux, les femmes contre les hommes, les chômeurs contre les actifs, les Français contre les étrangers, plutôt, d'ailleurs, dans ce sens-là. Bon, et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est vraiment fondamental de réaffirmer l'égalité des droits. Et donc, dans ce cadre-là, on a été aussi très sensible à cette démarche que vous avez de dire, bon, même s'il y a, il peut y avoir des propositions précises, vous êtes intéressé à l'ensemble des réponses politiques. Alors ensuite, sur le fond, bon, je peux dire que sur le constat, on se retrouve sur pas mal de choses que vous avez dit. Et sur les objectifs, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé et qui rentrent en résonance avec ce qu'on essaye de défendre et ce qu'on veut défendre. C'est quand vous dites, pour autant, nous voulons rester convaincus qu'il n'y a rien d'inéluctable, à partir du constat que vous faites, que le contexte actuel ne doit pas nous empêcher de penser collectivement un futur souhaitable, différent des solutions de court terme. Alors vous savez que nous voulons absolument porter l'écologie, et que justement, un des fondements de l'écologie, c'est de ne pas penser à court terme, mais de penser à long terme. C'est-à-dire de prendre en compte absolument l'avenir de la planète et de l'avenir de la vie humaine sur Terre, parce que on n'a pas trouvé d'autre planète à l'heure actuelle où on peut aller vivre. Donc c'est fondamental, du coup, de penser le long terme. Donc vous comprenez que, moi, quand j'ai lu ça, je me suis retrouvé tout à fait dans cette réflexion, et pour nous, elle est vraiment très importante, et que vous l'ayez mise en avant, nous sommes fondamentales. Et quand vous dites, derrière la crise du système qui se déroule sous nos yeux, il y a la possibilité d'un monde meilleur, nous devons la saisir à la notre portée, encore faut-il que nous le décidions. Pour nous, ça rentre aussi en résonance avec un des éléments qu'on porte beaucoup, qui est de dire que nous voulons nous battre contre la résignation, contre les discours sur le thème « il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas faire autrement » et ainsi de suite. Et il faut être raisonnable, parce qu'on entend aussi beaucoup ça. Et donc nous, c'est fondamental de dire qu'à un moment donné, tout ce qui fait la différence, c'est la question de la volonté politique. Donc que vous mettiez aussi en avant cette question, encore faut-il que nous le décidions, pour nous, donc, ça nous a paru très, très positif. Alors, après, je dirais que globalement, sur les propositions, bon, on peut avoir des accords, des nuances, quelquefois des désaccords sur les différentes thématiques, mais je suppose qu'on le voit thématique par thématique. Je ne sais pas si j'ai encore...
Très, si vous avez encore un mot à ajouter, vous avez encore... Très bien, merci beaucoup. Donc on va passer tout de suite la parole à Sonia. Donc Sonia, elle est juste ici, elle a 24 ans, elle est étudiante en psychologie, spécialité criminologie à Rennes. Et tu vas nous parler de la question de l'école. Oui, je dis que ça me fait peur quand je dis ça comme ça, mais tu vas nous parler de l'école et de l'école souhaitable pour demain.
Bonjour Madame Villard. Alors l'ensemble de nos propositions sont allées dans le sens d'un changement radical de l'école, afin que l'école puisse réellement assurer une égalité des chances pour tous et une possibilité réelle de choisir son avenir. L'ensemble de nos propositions ont gravité autour de 5 thèmes principaux. Qui ont été en premier lieu la façon d'enseigner les contenus, centrés autour d'un socle commun, en insistant sur la nécessité d'apprendre à apprendre et d'une approche pluridisciplinaire. En deuxième lieu, le mode de fonctionnement d'une école comme lieu de vie, qui favoriserait également l'entraide entre étudiants, afin de remplacer l'esprit de compétition en faveur d'un esprit plutôt coopératif. On retrouve également la réflexion autour des rapports entre élèves et enseignants, favorisés par de nouvelles modalités d'évaluation. La question également de l'orientation et la réorientation afin de mieux lutter contre le décrochage scolaire. Et enfin, la formation des enseignants qui, à l'heure actuelle, ne nous semble pas satisfaisante afin de répondre aux nouveaux enjeux de l'éducation de l'école de demain. Donc voici ma question. Suite à l'étude des propositions qui vous ont été soumises, lesquelles d'entre elles ont particulièrement retenu votre attention de façon positive comme de façon négative et pourquoi ?
Alors, je crois que nous nous retrouvons effectivement sur le fait qu'il faut une école de la coopération et pas de la compétition. Ce qui est aujourd'hui malheureusement l'orientation qui est prise, qui est totalement de mettre en avant la compétition, non seulement entre élèves, mais même entre écoles. Et j'ai trouvé que, si vous voulez, c'était un petit peu la faiblesse, par contre, parce que l'égalité des chances, c'est quand même, c'est pas suffisant dans un sens, parce que la question, c'est aussi l'égalité d'accès à l'école. Et ça, c'est, vous l'avez peu abordé, parce que quand on voit aujourd'hui le chemin qui est pris avec le fait qu'on arrive avec le détricotage de la carte scolaire, si on peut dire. Bon, alors moi, en plus, je suis député de Paris, donc on le voit encore plus précisément, hein, c'est peut-être moins vrai dans certaines villes. Hein, mais en région parisienne, on le voit beaucoup, et on arrive du coup à des écoles, collèges, lycées, ghettos. D'un côté, ça peut être des ghettos d'excellence, si on peut dire, mais quand même, d'un certain point de vue, des ghettos. Hein, et de l'autre côté, des ghettos où on entasse les enfants des classes populaires. Donc ça, c'est un peu, nous, ce que, en lisant, qu'on trouvait qui apparaissait peu. Ce qui impose, par exemple, pour nous, qu'on est pour la remise en cause de... On est pour rétablir la carte scolaire, parce qu'il n'est pas normal que des enfants soient exclus d'un collège ou d'un lycée de leur quartier au profit d'enfants ou de lycéens venant ailleurs, parce qu'ils ont eu des meilleures notes et eux, ils sont obligés, du coup, de faire beaucoup de transport pour aller dans un autre. Et puis, nous sommes pour éviter les écoles ghetto, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour que tout le monde ait les mêmes moyens d'école, parce que c'est un peu ça le problème. À partir du moment où on fait une division au niveau du type d'établissement, on a des établissements qui ont plus de moyens, qui ont des moyens d'excellence, pendant que d'autres, au contraire, vont avoir peu de moyens. Et donc, ça, c'est un peu ce point qui nous semblait un petit peu faible dans les propositions, sachant que nous, ce qui nous semble fondamental pour l'école, c'est que l'éducation n'a pas pour seul objectif de former des travailleurs. Elle a aussi pour objectif de former des citoyens. Mais je crois que vous l'abordez, de fait. Hein. Mais pour nous, c'est vraiment l'élément central, parce que dans les débats actuels, des fois, on a l'impression que l'école, ça doit ouvrir directement sur le travail. Donc, bien évidemment, qu'on ne doit pas avoir des formations qui n'ont aucune relation avec ce que les jeunes vont faire après. Mais il faut aussi qu'on forme des citoyens pour le pays, et que les jeunes aient la possibilité de la maîtrise de l'avenir, et pas seulement d'être coincés dans une filière. Et dernier point, nous sommes sur l'école obligatoire 3-18 ans, incluant des filières professionnelles, mais par exemple, mais vous l'abordez peu finalement, enfin il y a un mot, sur l'apprentissage. Nous considérons que l'avenir de la jeunesse de notre pays, c'est pas d'envoyer des jeunes à 14 ans en apprentissage. On est pour, effectivement, si quelqu'un ne sent pas de faire des études intellectuelles pour aller au doctorat, bien évidemment, heureusement, parce que sinon, d'abord, on ne saura pas fait de quoi faire de tous les docteurs, au sens doctorat, hein, quel qu'il soit. Bon, donc, au contraire, il faut même réhabiliter tout ce qui est métier manuel, parce qu'il y a beaucoup de beauté, par exemple, dans tout ce qui est artisanat, et ainsi de suite. Donc, c'est fondamental, arrêter d'opposer ainsi métier manuel et métier intellectuel, au contraire. Mais ça doit se faire dans le cadre de l'éducation nationale, de manière à ce que, ensuite, toutes les possibilités soient ouvertes. Je ne sais pas si...
Merci beaucoup. On va continuer à parler du métier, des métiers. Et puis
j'ai juste oublié un point, excusez-moi. C'est qu'il y avait peu de choses sur l'université, et notamment la question de la LRU. Hein, parce que c'est la même chose par rapport à la compétition. Hein, cette fameuse loi liberté-responsabilité des universités qui arrive à faire des pôles de compétitivité universitaire, finalement, pendant que d'autres universités vont avoir très peu de moyens. Donc nous, au Front de Gauche, on est pour abroger cette loi et revenir à plus d'égalité au niveau du financement des universités.
C'est vrai qu'il est exact que les... C'est vrai que les travaux du groupe se sont plutôt focalisés sur l'école, en étendant au collège, voire au lycée, mais pas forcément sur l'enseignement supérieur. Alors maintenant, à poursuivre cet échange autour de la question de l'économie, avec Maude. Donc Maude, qui a 18 ans et qui est étudiante à Rennes en information et communication.
Donc, rebonjour, Madame Billard. Donc, au terme des travaux effectués par la Fabrique citoyenne, il nous semble essentiel de relever trois points qui sont majeurs pour une meilleure économie. Donc, tout d'abord, nous souhaiterions une reprise de pouvoir des citoyens sur l'économie qui passerait donc par une meilleure compréhension des enjeux économiques et notamment par plus de transparence des finances. Ensuite, donc, ça passerait également par une économie ouverte sur le monde qui répond aux défis écologiques de manière inventive et créatrice d'emplois également. Et donc, pour y parvenir, il nous semble nécessaire que cette économie revoie sa manière de mesurer et de répartir la richesse. Donc, suite à cela, notre question est la suivante. Dans toutes les propositions de la Fabrique, en ce qui concerne l'économie, donc, lesquelles ont particulièrement retenu votre attention, positivement et négativement, et pourriez-vous en décrire les raisons ?
Alors, donc, effectivement, j'ai trouvé que votre partie sur l'économie était finalement la plus travaillée des trois. Bon, c'est mon appréciation. Non, c'est vrai. Hein. C'est bon. Et la première partie, alors, bon, le titre, économie plus verte, bon, mais par contre, le contenu, je m'y suis vraiment retrouvé par rapport à ce qu'on peut dire, nous, notamment, contre la course au profit, sur l'incitation permanente à la surconsommation, parce que c'est vrai que nous sommes dans une société qui utilise énormément la publicité pour inciter à consommer. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais de mémoire, c'est autour de 14 milliards par an de dépenses de publicité dans notre pays, hein. Donc si vous rapportez ça à d'autres budgets, vous voyez que quand même 14 milliards pour la publicité, c'est énorme. Donc ça me semblait un élément très important sur la conversion écologique de l'économie, bien évidemment. Donc on se retrouvait là-dessus, sur une meilleure répartition des richesses. Donc vous savez, sur les choses en général, oui. Et sur la lutte contre la précarité, précarité qui touche particulièrement les jeunes, puisque ben, vous êtes les derniers entrants à chaque fois dans l'emploi. Et du coup, on sait qu'aujourd'hui, les 80% des embauches se font effectivement soit en CDD, soit en intérim, en contrat précaire, et ça veut dire des petits salaires, pas les moyens de s'installer, tout ça. Donc là-dessus, on se retrouve absolument. Je dirais que ce qui peut être ensuite est sur les mesures proposées pour une économie plus juste, c'est peut-être là où, disons que il y a des choses sur lesquelles on irait plus loin, hein, si on peut dire, parce que quand vous dites plafonner les dividendes, je crois que même le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui ne fonctionne que pour la finance, hein, c'est-à-dire que le seul objectif, c'est effectivement de faire du profit pour ensuite le distribuer aux actionnaires, au point qu'actuellement, il y a plus d'argent distribué dans les dividendes que y compris dans l'investissement. Ce qui est quand même problématique pour la suite. Hein, ça veut dire qu'on est un pays qui se rétrécit d'un certain point de vue sur les capacités d'innovation. Là, en visitant juste avant, je voyais la voiture solaire. Bon, et le jeune qui fait ça, on expliquait que personne en France, y compris côté pouvoir public, n'aide pour ce genre de développement. Donc je crois que, par exemple, nous, on propose qu'il y ait un pôle financier public. Ça veut dire que à la fois la Poste, Oseo, la Caisse nationale d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations soient regroupées dans un pôle financier public qui est comme objectif justement de permettre la reconversion écologique de l'économie dont vous parlez, hein, de financer des projets sous cet objectif, ce qui dans ce cas-là donnerait par exemple le financement de ce projet de voiture solaire, puisque c'est un exemple typique de ce dont on a besoin. Nous savons donc tout ce que vous dites sur l'écologie, c'est-à-dire que notre planète est une planète finie, qu'il y a des tas de matières premières de cette planète qui ne sont pas renouvelables. C'est le cas du pétrole, mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de minerais. Donc on a besoin de se projeter dans le futur, ce que vous disiez sur les temps longs. Et donc pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et nous pensons que ce n'est pas le marché qui va nous en donner les moyens. Parce que quand on est... je réagirai après sur la partie Europe, hein, mais quand on est dans le principe de la concurrence libre et non faussée, ça va là où ça rapporte le plus d'argent le plus vite possible. Donc c'est contradictoire avec tous les objectifs justement que vous voulez mettre en avant sur l'économie. Donc vous voyez qu'on se retrouve sur la philosophie, après sur les mesures concrètes, on irait plus loin avec des propositions, par exemple sur la relation capital-travail. Donc vous avez peut-être entendu Jean-Luc Mélenchon en parler, donc nous sommes pour un revenu maximum. Donc il y en a qui trouvent ça choquant, mais nous on considère que au bout d'un arrivé à un certain revenu, l'argent supplémentaire sert soit à la spéculation, soit au gaspillage, qui est mauvais pour la planète. Donc comme nous sommes cohérents, nous disons ben, au-delà d'un certain revenu, ça ne sert à rien. Il vaut mieux donc avoir une répartition que des gens qui entassent de l'argent pour rien. Première chose. Et nous sommes pour un salaire maximum. Nous sommes pour un salaire maximum. Pour vous donner un exemple, les patrons du CAC 40, en 8 ans, ont augmenté leur salaire d'un tiers. S'ils avaient augmenté le salaire minimum dans leur entreprise au même niveau, le SMIC serait à 1600 euros aujourd'hui. Bon, il n'y est pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc quand on nous dit que la proposition du Front de Gauche, 1700 euros brut, c'est pas responsable, bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les patrons du CAC 40 arrivent à s'augmenter de 33%? Donc si on fait un lien vertueux entre le salaire du chef d'entreprise et le salaire le plus bas dans l'entreprise, chaque fois que le chef d'entreprise augmente son salaire, il est obligé d'augmenter le salaire le plus bas de l'entreprise. Et comme ça, ben, ça crée une obligation d'augmentation des salaires. Et dernier point, parce que je suppose qu'il faut que j'arrête, est poser la question des biens indispensables, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, le logement, la santé et l'éducation aussi. Donc, parce que, je dis toujours, moi, j'ai toujours été locataire dans ma vie, je n'ai jamais gagné l'équivalent de plus de 1500 euros, et je pouvais me loger dans le locatif privé. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand vous, même en gagnant 1500 euros dans les agglomérations, vous ne pouvez pas vous loger. Donc c'est le prix du logement, notamment, qui a beaucoup augmenté, le prix du transport, le prix de la santé. Donc il faut... Nous, on est pour la baisse des loyers, on le dit, parce que les loyers ont augmenté tellement que les propriétaires qui louent ont eu le temps, quand même, hein, de s'enrichir. Donc aujourd'hui, on est pour la baisse des loyers. On est que pour l'énergie, pour l'eau, les premières tranches soient gratuites, pour que bah, chacun ait l'accès au minimum, et ensuite, au contraire, on module de manière à ce que le gaspillage soit, au contraire, sanctionné.
Merci beaucoup. On va voir sur les questions de l'Europe. Là aussi, vous êtes encore plus ambitieuse que nos jeunes participants. Donc, je passe la parole à Mathilde. Mathilde, tu viens de Strasbourg, tu as 25 ans et tu es étudiante en orthophonie. Voilà.
Bonjour, Madame Billard. Voici un résumé de nos propositions pour une citoyenneté européenne renforcée. Donc déjà, pour qu'un citoyen puisse se sentir plus impliqué dans l'Europe, nous pensons qu'il faut qu'il se sente plus européen. Donc il faut encourager les occasions de connaître l'Europe et les autres Européens. D'abord, en renforçant le sentiment européen par l'éducation, notamment aux valeurs de paix et de droits de l'homme. Ensuite, en rassemblant les citoyens par les symboles. Et enfin, en les sensibilisant à travers la communication. Ensuite, il faut leur donner davantage d'occasions de débattre de l'Europe qu'ils souhaitent. Donc pour cela, nous voudrions des droits de vote élargis à plus de citoyens, davantage d'élections directes et de démocratie participative. Pour nous, cela doit servir à infléchir le projet européen pour une Europe plus durable et plus solidaire. Voici notre question. Quelles propositions de la Fabrique citoyenne, que je donc viens de résumer, autour de l'Europe, ont particulièrement retenu votre attention, positivement ou négativement, et pour quelles raisons?
Alors j'avoue que c'est là où j'ai trouvé le moins de propositions à reprendre. Sur la participation citoyenne, oui, parce que vous savez que nous mettons au cœur justement cette question de révolution citoyenne, donc pour nous c'est fondamental. Bon, ensuite sur l'Europe, le problème c'est pourquoi aujourd'hui il y a une telle méfiance vis-à-vis de l'Europe? C'est pas parce que c'est l'Europe, c'est parce que les politiques menées, finalement, donnent l'impression d'abord, ça c'est ce que vous dites, qu'il n'y a plus de maîtrise sur les politiques menées. Hein, c'est-à-dire que c'est des instances de l'Europe qui prennent des décisions sans qu'il y ait la parole du peuple, soit directement, soit par des représentants même. Bon, ça c'est une réalité, donc oui, il y a un déficit démocratique en Europe aujourd'hui. Mais le problème c'est aussi un problème de politique. C'est-à-dire que quand, à partir du traité de Lisbonne, donc le traité qui a fait suite à ce qu'on a appelé le traité constitutionnel européen, bon, qui a été donc le traité constitutionnel européen rejeté lors du référendum, modifié en traité de Lisbonne, qui lui n'est pas remis au référendum en France, mais qui est voté par le Parlement français. Bon. Quant au centre de ce traité, il y a ce que je disais tout à l'heure, la question de la concurrence libre et non faussée, ben, ça donne ensuite tout ce qui est directive européenne, qui par exemple oblige à ouvrir le marché de l'électricité, à ouvrir le marché du rail, à ouvrir le marché de la santé, bon, et ainsi de suite. Et si ça donne aujourd'hui les catastrophes que nous sommes en train de vivre en termes de dégradation des services publics, ce que ça c'est assez dramatique. En termes de dégradation du système de santé, c'est la même chose. Ça, c'est, bon. Donc je crois que c'est cette question-là qui fait. Alors, vous le dites, sur quelle Europe voulons-nous ? Quelle Europe durable et solidaire ? Donc oui, cette question est fondamentale. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Europe n'a pas du tout pris ce chemin. Alors, nous disons au niveau du front de gauche que, nous dirons, si Jean-Luc Mélenchon demain gagne la présidentielle, que nous sommes prêts à ne pas respecter un certain nombre de directives si ces directives vont contre l'intérêt général, notamment contre les contraintes écologiques qui sont indispensables si on ne veut pas aller à la catastrophe écologique, ou contre les nécessités sociales pour faire en sorte que, justement, dans notre pays, mais c'est valable pour tous les pays d'Europe, que les citoyens aient une vie dans des conditions correctes. Et nous exigeons qu'il y ait un référendum sur le nouveau traité, hein, qui est en cours, bon, qui est sous trois morceaux. On en a déjà voté deux morceaux au Parlement français, notamment avec le fameux mécanisme européen de stabilité, mais qui a comme seule conséquence, en fait, d'instaurer l'austérité dans tous les pays d'Europe, de casser le droit du travail dans tous les pays d'Europe, puisque les mêmes mesures qui sont proposées par tous, c'est repousser l'âge de départ en retraite, baisser les salaires, réduire le nombre de fonctionnaires, casser les conventions collectives, donc celles qui, justement, renforcent les droits collectifs des salariés dans tous les emplois. Donc c'est cette politique qui est menée partout, en Grèce, en Italie, en Espagne et en France aussi, de fait. Donc nous, c'est cette remise en cause qu'on fait totalement, et donc c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait un débat démocratique en France sur ces nouveaux dossiers. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Même le débat qu'on a eu au Parlement, il a été fait à la va-vite. Et puis, comme vous avez peut-être pu remarquer, parce que peut-être que je suis en train de vous dire, vous parle peu, c'est qu'en fait, ça a été très peu repris dans les médias. Hein, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui ne veulent pas remettre en cause la politique austéritaire aujourd'hui menée en Europe n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait le débat. Nous disons, il faut que ce débat, en France, comme dans tous les autres pays, parce que c'est par le débat que les citoyens pourront prendre position, pourront comprendre et pourront, du coup, faire d'autres propositions. Sinon, on va encore augmenter un peu plus le rejet de l'Europe d'une façon qui ne sera pas une façon positive, parce que ce ne sera pas une façon constructive pour construire une autre Europe, une Europe sociale, écologique, démocratique.
Madame Billard, pour conclure, une question qui est à la fois, vous allez voir, un peu rhétorique, mais qui est symbolique, qui tient à cœur à ses participants, la Fabrique citoyenne, qui est la question suivante, dont je vais me faire chantre, qui est, si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, est-ce qu'il serait prêt à recevoir ses 40 citoyens pour débattre avec eux de leur propositions et voir peut-être si certaines d'entre elles pourraient être faisables et se décliner en France?
Alors en fait, nous allons même plus loin, puisque la proposition qui est portée par le Front de Gauche, c'est, si Jean-Luc Mélenchon est élu président, c'est de convoquer une constituante pour aller vers une 6e République. Donc ça suppose justement du débat citoyen, de la participation citoyenne. Donc dans ce cadre-là, évidemment, avec la Fabrique citoyenne, ce serait un des éléments de ceux qui pourront organiser le débat. Et c'est même fantastique que vous ayez, d'un certain point de vue, justement, commencé à vouloir, en tant que citoyen, vous emparer des termes du débat, bon, pour modifier la Constitution pour plus de démocratie, plus de participation citoyenne, une autre économie, un autre environnement. Donc c'est la proposition, si vous voulez, centrale, puisque c'est même la proposition sur laquelle on va faire une manifestation demain dans Paris.
Effectivement, pour commémorer la Commune en même temps.
Voilà. Merci à toutes et tous, et bonne continuation, et continuez à nous faire des propositions à tous, hein, pas seulement au Front de Gauche, parce que c'est... Non, mais c'est vrai, hein, et c'est comme ça que je pense que la jeunesse reprendra plus d'espace dans le débat politique.
C'était Martine Billard pour le Front de Gauche, confrontée aux propositions de la Fabrique citoyenne le 17 mars dernier lors du Forum national des initiatives étudiantes à la Grande Halle de la Villette. Rendez-vous dès maintenant sur la page Fabrique citoyenne sur radiogrenouille.com pour retrouver l'intégralité de ces débats et toutes les informations sur ce dispositif original de participation citoyenne. Restez à l'écoute sur Radio Grenouille.